Pour quelle fin l'Église offre-t-elle à Dieu le sacrifice de la messe? L'Église offre à Dieu le sacrifice de la messe pour quatre fins, les quatre fins de la prière, puisque c'est la plus haute prière qui soit, c'est la prière de Jésus. Pour l'adorer, il adore son Père, pour le remercier de ses bienfaits, pour en obtenir le pardon de nos péchés, et pour lui demander des grâces supplémentaires. On l'adore, on le remercie pour les grâces qu'on a déjà reçues, on lui demande pardon pour les infidélités à ses grâces, et on lui en demande de nouvelles. Voilà. Quelle est la meilleure manière d'entendre la messe? C'est d'unir ses intentions à celles du prêtre, de suivre les prières de la messe et de communier si l'on peut. De nos jours, il faut communier. Le janséniste communie une fois par an, et puis dans la routine actuelle, on communie tout le temps. Il faut savoir parfois, si vous êtes mis en grande colère juste avant une messe, eh ben, vous pouvez très bien ne pas communier. Oui. Et c'est pas pour ça que vous serez damné. Oui. Oui. Ah oui, mais moi je communie pas que si j'ai vu un film porno la veille. Ah ben c'est, y a pas que ça. Oui. Je suis désolé. Y a pas que la faiblesse hormonale et instinctive qui fait un homme. Hein. Vous avez aussi la charité fraternelle, c'est pas mal non plus. Oui. Hmm? La gentillesse, la politesse, la courtoisie. Ben, je dis pas que ce sont des péchés graves de pas sourire à sa boulangère, mais enfin, voilà, il y a des gens qui, comme je disais dimanche dernier, il y a des gens qui sourient pas, mais qui sont très gentils. Et si vous voulez, c'est leur tête. Ça leur passe pas par l'esprit de se forcer à avoir un rictus. Et ils sont très aimables en soi. Mais ils sont pas souriants. Oui. Enfin, il y a des gens qui sourient pas parce qu'ils sont pas aimables. Oui. Et qui pourraient sourire. Oui. Voilà. Dans quel sentiment doit-on assister à la messe? On doit assister à la messe avec les sentiments que l'on aurait si l'on voyait Jésus-Christ souffrir les douleurs de sa passion et mourir encore pour nous. Alors vous voyez, s'il n'y a que ça, c'est un peu doloriste. Il faut les deux. Il faut ces sentiments-là au moment de la consécration et au moment de la communion ou après la consécration, c'est Jésus ressuscité aussi. Vous voyez le problème et qui a provoqué un retour de balancier. Quand vous insistez trop sur la douleur et la passion, à un moment donné, ben, c'est parti dans l'autre sens. Et c'est parti tellement dans l'autre sens que ça a percé l'horloge. Vous avez une vieille horloge, un corps en chaîne normand d'une bonne horloge, et le balancier a cassé le système. Mais voyez-vous, catéchisme de 47, la meilleure manière d'assister au saint sacrifice de la messe est de suivre les prières du prêtre avec les mêmes sentiments que nous aurions eus au pied de la croix. Alors quand la prière eucharistique est en silence, vous ne suivez pas tout. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que beaucoup de personnes aient de missel, voire le 20e siècle. Avant, avoir un missel, il fallait acheter quelque chose qui était imprimé, qui coûtait cher, ou qui était même manuscrit, avec enluminure. Il y avait peu de personnes qui avaient des livres d'heures, voyez. Mais les gens savaient très bien ce qui se passait, et connaissaient la substance des prières du prêtre, qui entrait dans le Saint des Saints, et qui s'offrait comme Jésus s'est offert à son Père. Hein, Sainte Jeanne d'Arc ne connaissait pas le latin, je peux vous assurer qu'elle suivait la messe mieux que nous. Oui. C'est pour ça qu'elle a été choisie pour être une sainte, comment dire, combative, on peut le dire. Mais voyez, quand on lui dit « qu'est-ce que l'Église ?» hein, dans son procès d'inquisition, il m'est avis que le Christ et l'Église, c'est tout un. Êtes-vous en état de grâce? Ah, si j'y suis, que Dieu m'y garde, si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Ben, les prêtres qui écoutaient ces réponses, disaient « Léon, on aimerait bien connaître son curé, parce que quel bon catéchisme elle a reçu. » C'est pas seulement l'Esprit Saint qui lui inspirait ses réponses, hein. Elle avait suivi aussi le catéchisme, les sermons de sa paroisse. Faut pas non plus, comment dire, trop idéaliser les grâces de Sainte Jeanne d'Arc. Il y a eu des prêtres qui lui ont fait du catéchisme. De la communion, enfin. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il institué la Sainte Eucharistie sous les espèces du pain et du vin? Notre Seigneur a institué la Sainte Eucharistie sous les espèces du pain et du vin pour nous montrer qu'il veut être la nourriture de nos âmes par la communion, comme le pain et le vin sont la nourriture de nos corps. C'est extraordinaire. Rien que pour ça, on devrait être catholique, quand même. Bon. Communier, qu'est-ce que communier? Communier, c'est recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Est-ce le vrai corps de Jésus-Christ que l'on reçoit dans la Sainte Communion? Oui, on reçoit dans la Sainte Communion le même corps que Jésus-Christ a pris dans le sein de sa très sainte mère, le même qui a été attaché à la croix pour nos péchés, le même qui a marché sur, comment dire, en Galilée. Et... N'y a-t-il aucune différence? Vous vous rendez compte, hein, en 1885, on posait des questions incroyables. La seule différence, c'est que le corps de notre Seigneur est maintenant dans un état ressuscité, glorieux et caché à nos sens. Voilà la seule différence. Pourquoi Jésus-Christ se donne-t-il à nous dans la Sainte Communion? Jésus-Christ se donne à nous dans la Sainte Communion pour nous témoigner l'excès de son amour. Ah là, c'est joli, sortez les violons quand même. 1866. Donc ils n'étaient pas si jansénistes que ça. Non? Le fidèle qui communie seulement sous l'espèce du pain reçoit-il autant que le prêtre qui communie sous les deux espèces? Oui, puisqu'il reçoit Jésus-Christ tout entier. Est-il obligé de communier? Oui, on est obligé de communier puisque Jésus-Christ nous déclare dans l'Évangile que si nous ne mangeons sa chair et si nous ne buvons son sang, nous n'aurons pas la vie en nous. Donc on doit communier. Et à chaque messe. Quand sommes-nous obligés de communier? Nous sommes rigoureusement obligés de communier chaque année. C'est l'Église qui l'a fixé puisqu'on les gens communiaient plus. Pourquoi? Ils avaient peur, ils avaient honte, ils avaient tout ce que vous voulez. Eh bien, ils ne voulaient plus se confesser non plus. Donc l'Église les a obligés de communier au temps de Pâques. Vous avez dit, l'Église oblige à se confesser une fois par an. Libre à nous de nous confesser en décembre pour communier en avril. Vous voyez? Mais en règle générale, hein, les hommes du village, ils se confessaient le vendredi saint, et puis ils communiaient à Pâques une fois par an. Et puis après, ils faisaient leur vie. Ouais. Mais au moins, ils avaient l'humilité de se dire, bon, bah, là, il faut être sérieux. Voilà. Ce qui leur permettait parfois, pour certains, de pas aller à la messe ou machin. Mais bon, c'était par perte de la foi progressive à travers les siècles, hein. Sinon, quand vous aviez la pression sociale religieuse, c'est vrai que c'était pas pensable que quelqu'un ne croit pas en l'existence de Dieu. Et pas pensable que quelqu'un n'aille pas à la prière commune. Et c'est comme ça. Nous sommes rigoureusement obligés de communier chaque année. Ça, c'est l'Église catholique qui met l'obligation. Et Jésus nous dit, on n'aura pas la vie éternelle si on ne communie pas. Alors, à quelle fréquence on doit communier? Alors, l'Église catholique, successeur de Pierre, le pape dit, une vie humaine est quand même marquée par le retour des saisons. Une vie humaine est quand même marquée par le lever et le coucher du soleil. Et quel que soit le point qu'on est sur la terre, l'année dure 365 jours et un quart. C'est comme ça. L'homme l'a distingué, quelles que soient les civilisations qui n'ont pas communiqué avec les unes avec les autres, avec les siècles, ils ont distingué les mois lunaires et l'année solaire. Donc l'Église, de cette réalité humaine, dit, eh bien, on vous fait l'obligation de communier une fois par an. Et on vous fait l'obligation de vous confesser une fois par an. Oui, mais si je suis dans un état de péché, parce que je peux plus, vous pouvez plus être seul, que je suis divorcé, qu'un procès de nullité, c'est trop long, trop compliqué, j'ai pas de preuves, tout ça, les témoignages, je peux plus, je peux pas. Eh bien, mon cher ami, si vous n'arrivez pas à être fidèle à votre premier engagement, eh bien, vous portez votre poids, et puis vous verrez bien. Quand vous serez peut-être plus âgé, ou quand vous aurez un accident de voiture et que vous appellerez un prêtre, peut-être qu'à ce moment-là, s'il a la communion avec lui, il vous donnera la Sainte Communion. Mais si vous voulez, on vous demande d'être en vérité par rapport à à la vie, à vos promesses et tout ça. Mais c'est trop dur de nos jours, on est en 2018, on doit pouvoir communier dès qu'on veut. Ben oui, mais non. Il faut discerner le corps du Seigneur, il faut réfléchir, il faut se recueillir. Et on peut pas se marier deux fois, trois fois. C'est dur, c'est trop dur. Ah ben oui, mais seulement on voit bien à quoi nous a mené la décadence actuelle. Hein. Là, c'est le... Oui. Eh oui. Nous sommes rigoureusement obligés de communier chaque année au temps de Pâques et quand nous sommes dangereusement malades. Et là, pour le coup, on pêche plus après. Donc là, alors vous irez à la messe chaque dimanche? Oh oui, voilà. Et on donne le Saint Viatique, la voie vers le ciel. Hein. Mais en péril de mort, le prêtre donne tous les sacrements. Et puis, manque de chance, il guérit. Il dit, alors vous aviez promis d'aller à la messe tous les dimanches. Oui, mais vous comprenez, je suis fatigué, je reprends mon travail et tout, il faut bien manger, voilà. Ah là là. Mais il était sincère au moment où il avait peur de mourir. Oui. Mais l'intention de l'Église est que les fidèles communient plus souvent et surtout aux principales fêtes de l'année, tous les deux mois. Tous les deux mois. Ben oui. Toute l'intention de l'Église est que les... Et donc, vous aviez, à l'époque, vous saviez, vous deviez demander la permission à votre confesseur de communier. De nos jours, comme on a la communion très fréquente, elle est implicite. Mais Saint Benoît-Joseph Labre, qui était un vagabond, un erre, mais qui était un saint homme, il se confessait, le prêtre... Oui, mon fils, voilà, de ça. Et il disait, voilà, je prie, et je consacre toute ma vie à la prière, et je demande de la nourriture à... Mais c'était... En fait, il n'avait pas pu entrer en vie religieuse parce qu'il était... Il n'avait pas une assez bonne santé, je sais plus, enfin bon. Et en fait, il vivait comme un ermite, mais qui... Eh ben les prêtres trouvaient pas, vous voyez que sa vie était très très simple et très pure, très sainte. Et bon, du coup, lui communiait souvent. Et donc il a terminé sa vie à Rome, Saint Benoît Joseph Labre, il était là, il était français, hein, il était venu mourir à Rome, hein, voir Rome et mourir, et donc il était là. Et pieusement, il communiait. Donc il est là à la table de la communion, donc les personnes à côté de lui. Voilà. Corpus de Maître Jésus Christi. Voilà. Et puis, à Saint-Joseph, voilà, le prêtre, là, il pouvait pas, voilà, avec le ciboire et l'hostie, donc, c'est-à-dire, c'est la bonne odeur du Christ. Voilà. Et puis, quand il est mort sous une arcade du Colisée. Et un petit garçon qui est parti, enfin un enfant je crois, qui est parti dans les rues et qui a dit « Le saint est mort, le saint est mort, le saint est mort ». Parce que il était très gentil, il voulait vivre dans la rue, tout ça, mais enfin il était ni alcoolique, ni machin, tout ça. Enfin, On voyait pas pourquoi il, à part d'être un ermite en fait. Un ermite dans la ville, c'était. Ouais. Voilà. Comment s'appelle la communion de ceux qui sont en danger de mort? Elle s'appelle viatique. Parce qu'elle les prépare au voyage de l'éternité. Convient-il de communier souvent? Oui, il convient de communier souvent, et même tous les jours, si on peut. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut? Et alors, qu'est-ce qu'on peut? Oui.
Parfois, ça m'arrive de faire deux messes dominicales, c'est-à-dire le 11h et à 19h.
Oui. Dans la tradition de l'Église, on communie une fois. Parce que Jésus est tout puissant et donc il ne nous donne pas sa toute puissance deux fois par jour. Et on a toujours fait ça.
Mais c'est interdit ou c'est...
C'est pas interdit. Disons que c'était... On ne le permettait pas, sans que ce soit une interdiction, en disant, attendez, vous avez reçu Dieu dans l'unité de temps humaine la plus simple, donc pourquoi vouloir communier une deuxième fois? Vous avez besoin de que... Et finalement, avec le temps, on a, je crois que c'est Paul VI qui a permis de communier deux fois. Et je crois qu'il y a une norme actuellement qui nous permet de communier à chaque messe. Si vous assistez à trois messes, vous communiez trois fois, parce que vous participez, si vous voulez, au saint sacrifice de la messe et à la sainte Eucharistie. Donc, c'est le repas pascal. Et donc, vous prenez la victime à chaque, si vous y assistez, en pleine partie, comment dire, en plein recueillement, en pleine présence. Sauf que, comment dire, c'est quand même Dieu qu'on reçoit. Donc, pourquoi le recevoir plusieurs fois? On a besoin plusieurs fois, voyez. Donc, par piété, normalement, fine, on devrait communier qu'une fois par jour. Mais l'Église vous permet de communier plusieurs fois, dans le sens où, si vous vivez profondément la messe à laquelle vous assistez, il est vrai que c'est le sacrifice et c'est la communion.
Voilà. On peut l'offrir pour les hommes plusieurs fois, par exemple.
Ah oui, il y en a qui font des neuvaines de communion, hein, qui font 9 messes dans la journée. Donc ils vont, c'est à Saint-Louis d'Antin en général, ils assistent à toutes les messes parce qu'ils offrent leur communion à une intention, comme pour les âmes du purgatoire. Ah oui. Ah, il y en a qui le font en une journée, hein. Mais ce sont des personnes qui sont un peu mystiques. Attention, attention. Mais les âmes du purgatoire seront très contentes si vous considérez que la communion quotidienne est toute puissante. Pas besoin de multiplier la communion. C'est comme si la communion n'était pas assez puissante une fois. Faites attention. Alors ce à quoi on va vous dire, ah oui, mais alors donc, c'est pas la peine non plus de célébrer plusieurs messes. Pourquoi les prêtres ne pourraient pas concélébrer à 3, à 10? Pourquoi célébrer 10 messes alors qu'ils peuvent célébrer une seule messe en grande sympathie, en grande communion fraternelle et sacerdotale? Pourquoi vous voulez multiplier la messe, hein? Une messe est toute puissante et pourquoi vous seriez contre la concélébration? Eh bien parce que une messe, un prêtre célèbre cette messe-là. Et donc il y a des mérites infinis à cette messe-là. C'est dommage que 9 prêtres célèbrent la messe de ce prêtre-là. En fait, c'est une seule messe pour ces 10 prêtres. Et c'est dommage de ne pas multiplier ces grâces. Oui, mais alors pourquoi vous dites que c'est qu'on, comment dire, qu'on ne peut pas multiplier ces grâces par communion individuellement dans la journée? Et parce que c'est autre chose. Le prêtre célèbre la Sainte Messe qui donne des grâces au monde entier. Tandis que quand vous communiez, ces grâces sont pour vous. Et pour vos intentions, c'est vrai. Mais il y a un respect à avoir de cette communion quotidienne. D'ailleurs, un prêtre ne doit pas célébrer sans nécessité plus d'une messe par jour, par coutume. Vous voyez, une messe. Et s'il célèbre une deuxième messe, il faut qu'il y ait une nécessité. S'il célèbre une troisième messe, il faut une nécessité. Et normalement, il est interdit de célébrer 4 messes pour un prêtre. Il faut qu'il y ait des fidèles pour qui il faut la célébrer. Par piété, un prêtre ne doit pas célébrer plusieurs messes dans une journée. Et vous avez des prêtres qui perdent la tête et qui célèbrent. Il y avait un saint prêtre, mais qui perdait la tête, hein. Il célébrait 3 messes par jour, 5 messes par jour. Il est mort saintement, hein, mais ben, il grésillait un peu, quoi. Il célébrait 5 messes par jour, hein. C'est pas raisonnable. C'est à la fin, bon. Quels effets produit en nous la Sainte Communion, justement? Mais la Sainte Communion nous unit étroitement à Jésus-Christ, augmente en nous la vie de la grâce, la présence de Dieu dans notre âme, affaiblit nos passions et nous est un gage de résurrection glorieuse. Vous voyez? La Sainte Eucharistie produit-elle ses heureux effets dans tous ceux qui communient? Aïe, aïe, aïe. Non. La Sainte Eucharistie ne produit pas ses heureux effets dans ceux qui communient avec les que dans ceux qui communient avec les dispositions convenables. En 47, il disait, elle unit à notre Seigneur Jésus-Christ, elle augmente la vie de la grâce, elle affaiblit les mauvais penchants, elle est un gage de la vie éternelle. Quelles sont les dispositions nécessaires pour communier dignement? Il y a deux sortes de dispositions nécessaires pour communier dignement, les dispositions de l'âme et les dispositions du corps. La principale disposition de l'âme, c'est d'être en état de grâce, c'est-à-dire de n'être coupable d'aucun péché mortel non regretté et non confessé, et d'avoir une intention droite et pieuse. Vous voyez. 47, pour bien communier, il faut être en état de grâce et avoir une intention droite. Qu'est-ce que communier avec une intention droite et pieuse? Communier avec une intention droite et pieuse, c'est communier pour plaire à Dieu et devenir meilleur. C'est joli, c'est simple, c'est clair. Que doit faire avant de communier celui qui se sent coupable de quelque péché mortel? Celui qui, avant de communier, se sent coupable de quelque péché mortel doit se confesser et recevoir l'absolution. Alors, vous avez des formules de catéchisme qui sont très belles et qui sont mises en note. Efface nos péchés véniels. Nous rend plus forts pour éviter le péché et pratiquer la vertu. Mais ça, moi, je l'ai vu dans des catéchismes plus récents. Hein. Et dans ceux qui reçoivent, comment s'acquiert la pureté de conscience nécessaire pour communier dignement? Par une bonne confession. Quand les enfants doivent-ils communier? Les enfants doivent communier à Pâques. Les enfants peuvent-ils communier fréquemment? Oui, les enfants peuvent communier fréquemment, autant que les grandes personnes, même tous les jours, s'ils le font pour plaire à Dieu et devenir meilleurs. Jésus et l'Église le désirent. 1937. Quel effet produit en nous la grâce spéciale de la communion? La grâce spéciale de la communion produit en nous 4 effets. Elle nous unit plus intimement à Jésus-Christ et à son corps mystique, l'Église. Elle augmente en nous la vie de la grâce. Elle affaiblit nos mauvais penchants. Elle est pour nous le gage de la vie éternelle et de la résurrection glorieuse. Alors. Est-ce un grand péché de communier sans être en état de grâce? Oui, c'est le péché de Judas, c'est un horrible sacrilège. Boum. Voilà. Celui qui communierait en état de péché mortel commettrait un sacrilège, et dont il doit se confesser. J'ai eu la faiblesse de communier alors que j'avais des fautes sur la conscience, mais tout le monde me regardait et j'avais peur. Au mariage de deux catholiques, on présume que les personnes sont en état de grâce, et il faut qu'ils fassent un acte de contrition. Si, par exemple, la veille, ils ont fauté ensemble avant d'être mariés, ou la semaine d'avant le mariage, tout ça, et ils ont le privilège qu'il n'en est pas vraiment un, il faut qu'ils fassent un acte de contrition parfaite, alors qu'ils sont sur le beau prix Dieu en velours rouge. Je me confesserai dès que possible et je regrette les fautes que j'ai commises. Parce que c'est un scandale que le fiancé et la fiancée ne communient pas. Pourquoi ils communient pas? Et c'est comme aussi les séminaristes qui communient d'habitude en rang dans des séminaires. Et alors, il y a certains séminaires où les séminaristes ne communient pas et c'est entendu. Et moi, j'ai été dans, il y a des séminaires où tout le monde communie et on n'ose pas ne pas communier. Hein. Et alors, les servants de messe, les servants de messe sont invités s'ils ne souhaitent pas communier, s'ils ont pris un gros sandwich juste avant la messe, ou un bonbon à la menthe à l'offertoire, eh bien, ils mettent le doigt sur la bouche. Voilà.
Il n'y a pas la tradition de mettre les bras en croix comme ça.
Les bras en croix, c'est pour les fidèles qui se présentent, et c'est pas une tradition, c'est une coutume récente qui, justement, est un sens traditionnel parce que je dis, je ne souhaite pas communier, mais je souhaite recevoir une bénédiction. Et ça évite justement la polémique des divorcés remariés. Et un adulte qui se présente, soit il n'est pas baptisé, il veut une bénédiction particulière au banc de communion. Soit il y a un problème dans sa vie et il le manifeste publiquement et il n'en a pas honte, comme les pénitents publics d'autrefois. Mais au moins, comme ça, la communion n'est pas systématique. Mais il voudrait aussi que certains voudraient que l'absolution soit une bénédiction. Et, bénissez-moi mon père parce que j'ai pas péché. Bon, voilà, je me suis marié, c'est très difficile de faire un procès de nullité. C'est difficile d'être seul, je suis avec une autre femme, mais sinon tout va bien, et je me suis disputé avec mon voisin, j'ai médit contre mon collaborateur au travail, voilà, bon, mais très bien, voilà, pour le bon temps, voilà, que voilà, c'est plus une absolution, si vous voulez.
Ne pas être en état de grâce, alors c'est une règle de péché, c'est quoi ne pas être en état de grâce?
Eh bien, c'est avoir une faute grave sur la conscience. Par exemple, vous avez votre mère, commence à être sénile, elle vous énerve beaucoup, et vous la frappez.
Grave.
Voilà. Ben, il faut maintenir vos nerfs et pas frapper votre maman. Mm-hmm. Ouais.
On peut être en état de grâce avec des petits péchés.
Oui. D'accord. Et la communion peut même les remettre. Les personnes pieuses se confessent tous les 15 jours ou tous les mois pour leurs péchés véniels. Mais il faut, un autre père récité pieusement, une communion fervente remet les péchés véniels. Mais on aime confesser directement les péchés en confession.
Il n'y a que le péché grave qui nous coupe de la grâce.
Qui nous coupe de la grâce dans la mesure où on a... Parfois, voyez-vous, la matière est grave, mais est-ce qu'on a vraiment voulu cyniquement se couper de Dieu? Mais l'Église nous demande, par puritanisme bien compris, de faire attention par rapport aux hommes et à la pornographie actuellement, mais de nous confesser pour pas que la nature humaine tombe dans ce en quoi elle tombe actuellement. Oui. Mais les hommes, c'est pour ça qu'ils se confessaient moins et qu'ils communiaient moins avant, parce que bon, le péché solitaire, la masturbation est quelque chose d'un peu lourd chez les hommes, et donc ils communiaient pas aussi souvent que maintenant. Et de nos jours, avec Internet et compagnie, ben, je peux vous assurer que du coup, si vous voulez être un cacto pratiquant, tout ça, ben, vous vous confessez suivant vos chutes. Mais on est obsédé par le péché d'impureté, mais on oublie tous les péchés contre la charité par la même occasion, en général. Vous avez des gens qui sont très scrupuleux à pas regarder le moindre machin, le moindre film avec une scène, mais qui sont fâchés avec leur frère et qui voudraient le voir crever. Et qui se rendent même pas compte qu'ils sont pas en état de grâce. Parce qu'ils résistent à l'amour de leur prochain. Mais ça, c'est à notre mort qu'on règle nos comptes. Et que Jésus dit, voilà, qui tu es. Et nous, on le sait, confusément peut-être, mais on le sait. Et... Alors bon, vous voyez, c'est tout, toute une histoire religieuse actuellement et spirituelle hein, qui grésille depuis les années 50. Parce qu'avant, au moins, c'était clair. Là, maintenant, on dit, bon, allez, comme pour être sûr d'être en état de péché mortel, il faut la pleine conscience, le plein consentement et la matière grave. À force, ben, oh, allez, est-ce qu'on consent vraiment aux fautes qu'on fait, tout ça, bon. Et tout à l'heure, un taxi me dépasse, j'étais en Vélib. J'étais pas exactement machin, et il me klaxonne en passant. Et je... Ordure. Voilà. Vous voyez, j'aurais dû dire, si j'avais été vertueux, il n'est pas bon de klaxonner de manière intempestive pour faire peur à un cycliste. Non ? C'est mieux. Il n'y a pas de péché à dire cette phrase. Tandis que ordure, c'est un peu excessif. Ah, c'est un péché véniel.
Ouais. Aujourd'hui, les choses sont plus floues, alors, c'est ça ?
Ben oui, puisque de nos jours, on vous dit... voilà...
Mais c'est sorti avant d'en avoir l'intention.
Comment ?
C'est dit...
Non, du tout. Sorti avant l'intention, c'est un péché de faiblesse, si vous voulez, mais c'est un péché véniel quand même. Bah non, si j'étais habituellement bienveillant, je dirais... Oh ! Misère de la nature humaine. Pourquoi cet homme me klaxonne comme c'est inutile? Ben oui, si j'étais un saint, je dirais, ah, oh, misère. Misère de la nature humaine. Pourquoi cet homme a fait ça? Seigneur Jésus, pardon. Voilà. Mais le Padre Pio, lui, tout en étant un saint, il avait des indignations qui étaient très fines et très fortes. Donc quand l'ange gardien lui disait, il a aucun regret de ses péchés, il les dit par pure habitude et par convention sociale et chrétienne, au confessionnal, mais il a aucun regret particulier de ce qu'il dit, c'est par coutume, c'est une attrition, mais comme ça. Et le Padre Pio qui est là, il fait, sortez, vous regrettez pas vos péchés, c'est pas la peine. Oui, mais enfin, en bonne théologie, même si j'ai une petite attrition, vous pouvez compenser par l'absolution. Sortez. Donc le bonhomme, il sort, c'est un séminariste, hein. Et là, il ferait de la théologie pratique, et il revient, et là, il était contrit. Ouais, c'est sûr. Ceux qui communient sans être en état de grâce reçoivent-ils véritablement notre Seigneur Jésus-Christ? Ah oui! Il change pas l'hostie, même si... Oui, ceux qui communient sans être en état de grâce reçoivent véritablement notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils mangent et boivent leur jugement et leur condamnation. Alors là, oui. Quand vous avez un jeune homme qui n'a pas confessé 3 ans de péché solitaire de sa puberté jusqu'à ses 18 ans, qui n'ose pas le dire, il dit « Oh là là là, oh là 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 » et qui, à 25 ans, dit à un prêtre, j'ai jamais osé parler de mes péchés quand j'étais adolescent. Et là, je vous dis, j'ai fait des communions sacrilèges pendant des années, j'ai servi la messe et tout, machin, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais être damné. Je lui dis, mais non, vous êtes un con. Vous avez eu honte, vous n'avez pas eu confiance en Dieu, oui, si vous étiez mort, je ne sais pas ce qui vous serait arrivé, en effet. Mais moi, il ne faut pas trop... un prêtre, un jour, a eu un pénitent qui a dit, voilà, je voudrais communier profondément et sincèrement, j'en ai marre d'avoir ce... je me dis qu'il faut que je le dise. Et c'est déchargé d'un poids inutile. Ouais. Ouais. Comme s'il pensait que c'était le seul à être libidineux à 15 ans. Ouais. Bon. Mais voyez-vous, les prêtres avaient autant de bon sens populaire que moi, mais parce que je suis du 12e et j'ai eu un grand-oncle sapeur-pompier de Paris, mon père pendant des années hébergé à la caserne et tout. Donc moi, si vous voulez, je suis pas très prude. Et, mais c'est pas pour ça que je vais pas dire, cher ami, avant de communier, confessez-vous. Oui, mais enfin, ça arrive à tout le monde et tout. Eh ben non, confessez-vous. Et pour justement garder votre cœur dans une intention authentique et sincère. Parce qu'il faut respecter le corps des femmes, il faut respecter, vous devrez respecter votre épouse, vous, voilà. Vous devez respecter votre corps humain, votre âme. Et regardez comment maintenant on tombe dans des films délirants. On sait plus, il y a plus rien de choquant, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Donc pour terminer, quelles sont les dispositions nécessaires? Une disposition de l'âme nécessaire pour communier dignement, il faut être instruit des principaux mystères, croire fermement que c'est Jésus-Christ qu'on va recevoir et s'en approcher avec confiance et respect. Donc il faut qu'un protestant devienne catholique. Qu'entendez-vous par une communion tiède? J'entends par une communion tiède celle qui se fait avec peu de préparation et sans dévotion. Oui, la communion tiède est un grand malheur parce qu'elle nous prive des grâces les plus précieuses du sacrement. On n'est pas réceptif aux grâces qui nous sont données et qui passent. J'entends par une communion fervente celle qui se fait avec une foi vive, une ferme espérance, une charité ardente et avec de profonds sentiments d'humilité, d'adoration et de reconnaissance. Les dispositions du corps sont d'être à jeun, c'est-à-dire de n'avoir ni bu ni mangé depuis minuit, ça c'était avant Pie XII, d'être habillé décemment et d'avoir un extérieur modeste et recueilli. 47. Pour communier même aux messes de minuit, il faut encore être à jeun, c'est-à-dire 3 heures avant de communier, n'avoir ni mangé ni bu de boissons alcoolisées, vin, bière et liqueurs. 1 heure avant de communier, n'avoir pas bu d'autres boissons comme de l'eau. On peut prendre n'importe quel camp de l'eau naturelle, même minérale. Alors, pardon, n'avoir bu d'autres boissons, donc c'est déjà la nouvelle norme, mais même l'eau avant. Hein. Et là, on peut prendre n'importe quel camp de l'eau naturelle, même minérale, c'est-à-dire avec un peu plus d'oligo-éléments à l'intérieur. Donc, 3 heures avant, et maintenant c'est 1 heure avant, même la nourriture solide. Donc la nourriture solide c'était 3 heures avant, la boisson légère, donc nourriture solide et boisson alcoolisée 3 heures, et l'eau 1 heure. Maintenant c'est nourriture et boisson alcoolisée 1 heure, et eau tout le temps. Vous pouvez prendre un verre d'eau avant de communier. Oui.
Mais techniquement, en fait, la norme d'aujourd'hui, ça revient à ne pas manger pendant la messe.
À Saint-Eugène.
Oui, à Saint-Eugène.
Voilà. Mais quand vous avez une messe d'une demi-heure,
oui, oui.
Là, techniquement, c'est une demi-heure avant.
Oui, voilà.
Voilà. Voilà. Mais une messe qui dure 1 heure et demie, c'est sûr que vous pouvez un gros sandwich juste sur le parvis. Voilà. Et vous communiez à midi. Et c'est pas digne. Et... N'est-il jamais permis de communier sans être à jeun? Non, il n'est jamais permis de communier sans être à jeun, à moins qu'on ne reçoive la Sainte Communion viatique dans une maladie grave. C'est toujours vrai. 1 heure avant la communion, personne ne peut vous dispenser du jeûne. Et personne, même votre curé, personne. Sauf si vous êtes en état de péril. Vous êtes en train de mourir, vous venez juste de manger, un prêtre vient à vous, il peut vous donner la communion. Que pourraient faire ceux qui ne communient pas? Il serait bien utile pour ceux qui ne communient pas de faire la communion spirituelle, c'est-à-dire de s'exciter à un grand désir de recevoir Jésus-Christ et toutes les grâces de la communion. Enfin, pas l'extrême onction, hein. Que peut-on faire? Quand peut-on faire la communion spirituelle? On peut la faire en tout temps, mais surtout à la messe et dans les visites au Saint-Sacrement. Que faut-il faire le jour, quand le jour de la communion est arrivé? Imaginez, hein, 1826. Il faut, en se réveillant, s'occuper de la grande action qu'on va faire, éviter toute dissipation et se rendre de bonne heure à l'église. Il n'est absolument pas nécessaire d'entendre la messe pour faire la Sainte Communion, mais il vaut mieux communier à la messe afin de s'unir davantage à l'action du prêtre qui offre le Saint Sacrifice. On peut communier en dehors de la messe. Mais il vaut mieux communier dans la messe. Que faut-il faire pour quelques instants avant la communion? Avant la communion, il faut faire des actes de foi, d'espérance, d'amour, d'humilité et de désir. Il faut s'approcher de la sainte table avec respect, se mettre à genoux, tenir la nappe de communion étendue sur ses mains. C'est mignon. Pourquoi on peut communier sans la messe? Eh bien, pour des raisons de nécessité ou autres, vous désirez recevoir la Sainte Communion, vous ne pouvez pas assister à la messe. Par exemple, vous n'êtes pas mourant, mais vous êtes malade chez vous. Mais le prêtre ne va pas forcément célébrer la messe dans votre appartement. Il va vous porter la communion. Oui. Lorsque le prêtre présente la Sainte Hostie, on doit se tenir la tête droite, les yeux baissés, ouvrir médiocrement la bouche. Il y en a qui ouvrent sur 3 mm. Ils s'étonnent qu'on touche les dents avant. Il faut qu'on puisse au moins mettre un doigt. Alors si à la Sainte Communion vous êtes là et vous faites et vous avancez la langue, vous la tirez pas, mais il faut l'avancer. Il y a des personnes qui gardent leur langue derrière leurs dents, donc vous voyez. Tout ça c'est pour la vérité de la piété de recevoir en béquet comme un oisillon la nourriture céleste. Les yeux baissés, ouvrir médiocrement la bouche et avancer un peu la langue sur la lèvre inférieure. Il faut renouveler dans son cœur les actes de contrition et d'humilité, exciter en soi un plus ardent désir de recevoir Jésus-Christ et des sentiments plus vifs d'amour pour lui. Quand on a reçu la Sainte Hostie, il faut l'avaler aussitôt qu'elle est suffisamment humectée. On ne doit pas la mâcher. On ne doit pas mâcher l'hostie. Pourquoi ? Parce que qu'il n'y a pas de parcelle d'hostie dans vos dents. C'est tout, c'est pour ça. Et l'hostie est suffisamment petite pour être avalée sans être mâchée.
Dans des appareils dentaires.
En plus, voilà. Le prêtre, lui, est obligé de mâcher parce que l'hostie est grande. Mais il doit être très patient pour que toute l'hostie qu'on sent soit consommée. Que faut-il faire si la sainte hostie s'attachait au palais? Il faudrait la détacher doucement avec la langue, sans y porter les doigts. Il faut attendre qu'elle se dissolve. Que faut-il faire après la communion? Après la communion, il faut s'entretenir avec notre Seigneur Jésus-Christ et ensuite faire des actes d'adoration, de remerciement et de demande. Il faut adorer profondément notre Seigneur et lui témoigner avec le plus de ferveur qu'il se peut la joie qu'on ressent d'être avec lui. Il faut ensuite se retirer à l'écart pour faire son action de grâce. Le jour où on a eu le bonheur de communier, il faut éviter la dissipation et se rappeler souvent avec reconnaissance la grâce que l'on a reçue. Elle doit engager à conserver toute la vie la grâce qu'on a reçue. De quels moyens doit-on se servir pour cela? On doit prier Dieu dévotement soir et matin et entendre tous les jours la Sainte Messe si on le peut, avoir une grande horreur du péché et en fuir les occasions, approcher au moins tous les mois du sacrement de pénitence et celui de l'Eucharistie aussi souvent que le confesseur jugera à propos. Eh bien, voyez-vous, je vous dis en toute sincérité, attention, pendant des siècles, on communiait, on allait à la messe le dimanche et pas forcément en semaine. La dévotion a augmenté, et de nos jours, en effet, les catéchismes ont dit au XIXe siècle d'aller à la messe tous les jours. Mais voyez-vous, dans certaines écoles, dans certaines pensions, quand on a obligé des enfants à aller à la messe tous les jours, alors qu'ils ne le souhaitaient pas, on les a dégoûtés pour toute leur vie. Et ça a été une catastrophe au 19e siècle et au 20e siècle. Ça doit être un acte totalement pieux et libre. C'est un vrai problème. Et ça a été une des causes de réactions progressistes. Et qui ont permis aussi de nier la présence réelle, de relativiser la présence réelle et tout ça. Il y a eu quelque chose. C'est pour ça que de nos jours, il faut bien prier, bien réparer. Mais d'un autre côté, voyez-vous, dans le même temps, on ne peut pas ne pas dire que le bon Dieu a peut-être préparé aussi une ferveur spéciale, parce que c'est pour d'autres causes qu'il y a eu autant de malheurs aussi, et qu'il y a autant de manque de piété de nos jours. Les tentations ont explosé, sont multipliées. C'est pas seulement à cause, si vous voulez, d'un excès de piété à un moment donné où on demandait trop souvent aux gens d'aller à la messe, ou même on reprochait à quelqu'un de ne pas aller à la messe en semaine. Ce qui n'est pas du tout légitime. On doit être totalement libre d'avoir une piété, d'avoir une ferveur particulière, totalement libre. Ah, ben moi je vais à la messe en semaine, pas vous, vous êtes un mauvais chrétien. Ben moi je vais à la messe tous les dimanches, je fais partie quand même des 2% de baptisés qui vont à la messe tous les dimanches. C'est quand même pas mal. Ben oui. Voilà. Donc, j'ai pas pu être très spirituel ce soir, mais voilà. Et vous avez ensuite là, vous avez des extraits du magistère sur la Sainte Eucharistie que vous pouvez prendre, mais nous arrêtons là.